Sud Radio 10h midi, débat.
Et on est ensemble jusqu'à midi avec Pierre-Jacques Mat, rédacteur en chef de la revue Regard. Vous avez publié, coordonné plus précisément le livre « Dessine-moi un pangolin au diable Vauvert ». Luc Aveyran, vous êtes étudiant, adjoint à la mairie de Neuilly. Laure Lavalette, bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est une première membre du Conseil national du Rassemblement national et conseillère municipale à Toulon. Et Jackie Isabello, communicant et cofondateur de l'agence Coriolink. Bonjour à vous. Sondage IFOP Sud Radio, Zemmour inquiète 53% des Français. Et vous, dites-nous ce que vous en pensez. Pourquoi la gauche n'arrive-t-elle pas à convaincre? Autre sondage, cette fois paru dans le Figaro ce matin. Et les Français favorables à l'éolien. On va essayer de traiter tous ces sujets et puis même le pass sanitaire, mais je n'y crois pas beaucoup, mais ça fait partie du menu qu'on a envie de traiter chaque matin. Commençons avec notre tour de table. Pierre, c'est un coup de cœur pour un film.
Oui, un coup de cœur. J'ai eu la chance de voir en avant-première le film « Debout les femmes », un film qui a été réalisé par Gilles Perret, qu'on connaît pour avoir réalisé ce film « Je veux du soleil » sur les gilets jaunes, mais aussi la sociale qu'il avait réalisé il y a à peu près 4 ou 5 ans, je crois. Il a réalisé ce film avec François Ruffin, le député François Ruffin, et ça retrace le parcours de deux députés, François Ruffin, député de la France Insoumise, et un député de la majorité présidentielle, Bruno Bonnel, qui partent faire le tour de France pour rencontrer ces femmes qui travaillent dans les métiers du soin. Donc il y a des assistantes de vie scolaire, il y a des femmes, des aides à domicile. Et donc, il suit ces femmes pendant la première période du confinement, parce que le film démarre à ce moment-là. Et l'objectif, c'est de montrer la précarité de ces femmes et l'engagement total de ces femmes, malgré les conditions professionnelles. Ce sont des femmes qui ont des maladies liées au travail, de la souffrance liée au travail. Elles ont des problèmes de dos à la fin de leur carrière professionnelle, souvent, qui n'en peuvent plus, mais qui sont totalement engagées pour les personnes auprès de quelles elles interviennent. Et c'est un film sublimissime. Je vous invite vraiment à aller le voir. Il sort mercredi prochain. Jusqu'à mercredi, d'ailleurs, donc partout en France, il y a des projections avec les réalisateurs et ces femmes aussi, qui sont évidemment les premières à mettre à l'honneur. D'autant plus qu'elles ont été ces femmes en première ligne pendant la crise du Covid, qu'on a tant applaudi avec les infirmières, les aides-soignantes, etc. Et qu'on a franchement délaissé, qu'on a franchement oublié. Oui. Et donc, la fin... Donc, d'abord, c'est un duo assez improbable, parce que c'est quand même deux députés qui ne sont pas franchement d'accord politiquement, mais qui finissent par aboutir sur un constat, qui finit sur une mission d'enquête parlementaire qui montre la souffrance de ces femmes et la nécessité d'intervenir et de porter leurs revendications au plus haut. Et donc le film se termine, il faut avoir l'air
solide pour pas
tomber en larmes. Ouais.
Ça s'appelle,
un entrepreneur, et un autre qui est plutôt un journaliste qui va sur le terrain et qui se frotte un peu à la réalité du terrain.
Le titre du film,
c'est Debout les femmes.
Debout les femmes, d'accord.
Qui n'est pas une injonction aux femmes de se mettre debout, parce qu'elles sont déjà debout, mais il faut voir le film pour comprendre pourquoi ce film s'appelle comme ça.
Lucas, c'est un coup de gueule sur lequel on pourra peut-être revenir.
Tout à fait, un coup de gueule en réalité qui m'arrange pas mal, parce que c'est pas la candidate que je soutiens. Néanmoins, je m'étonne du démarrage de la candidature d'Anne Hidalgo. C'est vrai que je la trouve assez absente des débats. L'idée n'est pas du tout d'arriver à tout bout de champ, de monopoliser l'antenne sur les plateaux télé comme d'autres candidats le font. Mais c'est vrai qu'il manque des actes de campagne, il manque des propositions qui paraissent un peu plus denses que seulement une réduction de la TVA sur les thématiques énergétiques, qui d'ailleurs rentre légèrement en contradiction avec elle-même sa vision qu'elle entend développer des enjeux écologiques. Et surtout, j'ai l'impression que le Parti Socialiste, qui était déjà globalement mal en point, commence à se dire, est-ce qu'on a fait le bon choix de s'agréger autour de cette candidate-là ? Ce qui peut objectivement laisser un champ assez ouvert à gauche pour potentiellement des fusions, parce qu'on se rend bien compte qu'avec une candidature qui plafonne autour de 5-7%, avec un candidat écolo tous les candidats de la gauche globalement se situent en dessous des 10%, peut-être qu'enfin, la faiblesse des uns pourrait faire l'intérêt d'une fusion des gauches bénéfice.
Ouais. On va essayer d'en reparler tout à l'heure, mais donc vous l'encouragez, vous, en tant que communicant, à prendre la parole.
Non, j'encourage pas, mais je dis, être candidat à l'élection présidentielle, et globalement, je pense que c'est un sentiment qui peut être largement partagé, c'est une responsabilité. C'est quelque chose qui suppose, effectivement, d'avoir un projet, d'avoir une capacité de fédération. C'est pas, on se réveille le matin en se disant, peut-être que je suis le mieux placé pour être le candidat de tel ou tel camp. Si on n'a pas l'impression que c'est possible d'être... de gagner, d'aller au second tour, si on n'a pas l'impression que c'est possible de faire progresser ses idées, on n'y va pas, parce qu'on occupe du terrain, peut-être par rapport aux autres, là où les autres pourraient faire mieux.
Je partage le constat, juste un mot, mais il ne faut pas penser la politique comme étant la somme, ou en tout cas l'addition de candidatures.
Et
je
ne crois pas qu'aujourd'hui,
effectivement,
la politique.
Oui, c'est hélas. Puis il y a il faut bien le dire, il y a aussi des grosses divergences entre les différents candidats de gauche qui ne sont pas des petites divergences. Bien sûr, ils peuvent se mettre d'accord sur un programme commun. On est à 7 mois de l'élection présidentielle, j'ai quand même l'impression que chacun veut sauver surtout sa propre parcelle. Le Parti socialiste d'un côté, Europe Écologie Les Verts de l'autre, la France Insoumise de l'autre, et donc et le Parti communiste français aussi. Le Rassemblement national qui va très mal, je crois, non ?
Regardez, est-ce que j'ai l'air d'aller mal ?
On va en parler. Jackie, vous, c'est un coup de cœur ?
Oui, un coup de cœur d'entrepreneur. Moi, je voudrais dire chapeau bas aux syndicats patronaux et aux syndicats de salariés qui, à l'heure où tous les candidats à l'élection présidentielle nous promettent monts et merveilles à coups de milliards qui seront remboursés par le peuple français, eh bien, eux, ils ont décidé d'être raisonnables dans la revalorisation des retraites complémentaires. Et ils l'ont fait tous ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le patronat d'un côté. Les syndicats de salariés ont dit « Nous sommes garants de la retraite de plus de 14 millions de personnes ». Et là, on pense que voilà, il faut une revalorisation qui est une revalorisation, mais modeste. Et je trouve ça très raisonnable dans une période où, les promesses sont assez excessives. Lucas parlait tout à l'heure de la mesure proposée par Anne Hidalgo, mais rappelons-nous qu'elle a quand même proposé de doubler le salaire des profs, qui risque quand même de coûter un petit peu d'argent. Voilà, un peu de raison et cette espèce de co-gestion à l'allemande pour nos retraites, hein, les vôtres qui êtes plus jeunes, les nôtres, les miennes, ben je trouve ça intéressant de le souligner.
Je voulais revenir sur ce que vous venez de dire sur Anne Hidalgo, parce que je ne cherche pas à défendre Anne Hidalgo, mais c'est vrai que par exemple, quand elle sort sa proposition sur les enseignants, tout le monde trouve ça irréaliste, que c'est une promesse, machin, etc. On peut considérer que c'est une promesse qui n'est pas juste par rapport à un nombre de métiers qui mériterait aussi des augmentations de salaire et des revalorisations. Mais le même jour, souvenez-vous, Emmanuel Macron annonce le doublement des effectifs de police en 10 ans. C'est sur un plan budgétaire à peu près la même chose. Donc pourquoi ce qui serait possible sur la police ne le serait pas chez les enseignants ? Je pose la question. Il y a un homme qui dit ça. Emmanuel Macron, il dit ça. On trouve ça tout à fait logique et tout à fait possible et crédible. Anne Hidalgo fait une proposition similaire avec un poste budgétaire qui est à peu près le même, parce qu'elle propose une augmentation pour les débuts de carrière. Donc, en termes d'effectifs par rapport à ce que veut faire sur la police Emmanuel Macron, c'est la même masse budgétaire.
Mais Pierre, il se trouve que Lucas parlait juste d'Anne Hidalgo tout à l'heure, donc je rebondissais pour mon coup de cœur sur ce qu'il avait dit. Il n'a pas parlé de Macron.
Et puis, je pense qu'il faut aussi... ce qui a été reproché à Anne Hidalgo, c'est en réalité, on a l'impression qu'on parle finalement de prestations dont on devrait réduire effectivement le coût minimal, optimal, sans affecter la qualité des prestations. Objectivement, ce qu'on demande à un candidat à l'élection présidentielle, et ce que n'a pas fait Hidalgo dans cette mesure-là, c'est d'interroger l'offre. C'est-à-dire que, effectivement, je suis d'accord avec vous, 1 euro investi dans l'éducation, c'est 8 qui sont économisés sur la sécurité. Mais aujourd'hui, vous prenez un certain nombre de pays asiatiques, c'est parmi les pays qui investissent le plus. Mais autour de quelle offre éducative qui permette d'obtenir quel niveau de compréhension, de lecture, de niveau de compréhension en mathématiques? Vous voyez, comme moi, le niveau s'effondrer dans à peu près toutes les matières clés de la France dans les classements de l'OCDE. Donc si vous voulez, si l'ambition pour l'éducation, c'est juste une revalorisation des salaires, à mon avis, ça suffit pas.
On parlait pas de la même chose. Je parlais de la question de la crédibilité. Mais vous avez raison. En plus, je partage ce que vous venez de dire. Mais ce que je veux évoquer, c'est la question de la crédibilité. Qui on est, qui nous sommes pour juger de la crédibilité d'une mesure qui est annoncée par un candidat à une élection présidentielle?
En tant qu'entrepreneur,
je pose une question.
Il faut chiffrer une mesure. Ils ont même pas été capables de chiffrer la mesure. C'est pas sérieux.
Je pose une question. Pourquoi on trouve crédible une mesure proposée par Emmanuel Macron et qui est à peu près équivalente sur un plan budgétaire à celle que propose Anne Hidalgo et qu'on ne trouve pas crédible. C'est juste ça que je pense.
Anne Hidalgo n'a pas l'air crédible, la pauvre. Je pense que ça joue aussi. À chaque fois qu'elle parle, on se demande un peu, on a l'impression qu'elle se demande elle ce qu'elle fait là. Je pense que ça doit jouer aussi.
C'est sur le budget de Paris aussi, où elle a visiblement pas très bien.
Elle est tellement dans le déni.
Elle est tellement dans le déni, notamment sur
le saccage Paris et tout, qu'elle perd un peu toute crédibilité sur le reste de ses mesures. Je reviendrai une seconde sur votre coup de cœur. J'enfoncerai un peu le clou en disant qu'effectivement ces femmes-là étaient admirables, on les a beaucoup applaudies et maintenant celles qui refusent de se faire vacciner sont virées. Et je trouve qu'il y a quand même ça me paraît complètement inadmissible de les avoir admirées, de connaître leur travail, de voir ce qu'elles ont fait, de voir que là elles peuvent pas continuer.
Vous partez du principe que ce sont les plus précaires qui refusent de se faire vacciner?
Non, mais en tout cas on aurait dû avoir cette liberté. Et je pense que ces femmes-là qui avaient la liberté de pas vouloir se vacciner ont dû changer de boulot, quoi. Et on en connaît.
Oui, mais c'est il y a une pandémie là, on va pas. Enfin, moi, je serais pas d'accord avec vous sur ce sujet.
Voilà, vu le taux d'incidence.
Et moi non plus, je ne reste pas d'accord avec
vous. C'est super, c'est quatrième sujet.
Ça reste marginal maintenant.
Ça reste assez marginal.
Pas tant. Il y a quand même des gens qui ont dû se recycler, trouver d'autres boulots parce qu'ils n'avaient pas envie de se faire vacciner.
Sans doute, maintenant, je pense que
ils auraient pu produire des passes sanitaires, par exemple. On n'était pas obligés de.
Sans doute, mais là où je rejoins un peu Valérie, et c'est que la priorité, à mon avis, de celles dont sont allés voir François Ruffin et Bruno Bonnel, à mon avis, la première de leurs revendications, c'était pas nécessairement la liberté de se faire vacciner pour changer d'activité. C'est la revalorisation, c'est leurs conditions de travail.
Bien sûr, mais c'est aussi de détourner le débat sur pouvoir continuer à travailler sans être vacciné.
Oui, mais c'est pas, si vous voulez, en détournant le débat sur une présumée privation de liberté, qu'à mon avis, on répond à leurs conditions d'existence, à leurs conditions de travail sur lesquelles on peut s'accorder.
Bien sûr, et je vous rappelle, souvenez-vous du hashtag Feta Blues quand même. Il y a quand même des gens de la société civile qui ont fait des blouses avec des vieux draps pour des soignants qui n'étaient pas du tout équipés. Mon coup de gueule à moi, c'est Ryan B, son jogging, sa capuche et son air un peu crétin. C'est un... Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas vu la vidéo, c'est un jeune d'origine immigrée qui passe devant un camion de pompiers. Ouais, bah n'empêche, c'était pas un Suédois, je suis confuse, c'est factuel. Il passe devant un camion de pompiers qui est vide, il rentre dedans, il insulte les pompiers, il vole le sac à dos d'intervention des pompiers. Le pompier, c'est quand même un peu la fonction suprême, c'est celui qui va sauver votre fils, votre mère, votre mari. Aucun respect, il se moque, il se filme, après il fait des bruits de Kalachnikov, on est juste en plein procès Bataclan. Il se remet encore sur les réseaux sociaux. Il est interpellé, la police fait son travail formidable, interpelle, il va en garde à vue, il ressort de là avec un stage de citoyenneté. On rigole. Il va faire quoi, du macramé, il va faire des Scooby-Doo. Enfin, il y a un moment où c'est pas possible, quoi. On manque, et je pense que ce fait divers là montre exactement le laxisme judiciaire, et d'ailleurs on a bien vu qu'il a été réinterpellé, là il est encore en garde à vue me semble-t-il, parce qu'il a fait des menaces de mort contre Blanquer, accompagné d'un de ses amis qui avait un pistolet. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment de ça dont on a envie, quoi? Je veux dire, c'est pas possible. Sa place est en prison, elle est pas sur Snapchat et TikTok. Et en parlant de prison, ça permet de poser la question de savoir où sont les 15 000 places de prison promises par Emmanuel Macron. Dupond-Moretti dit qu'il y en a 7 500 qui sortent de terre. Très bien, ça fait 4 ans et demi que ces gens-là sont au gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Vous les construisez où, les prisons?
Non, mais ça se trouve, vous savez qu'on va trouver des experts qui
vont dire... Non, mais ça a l'air d'être une simplicité absolument confondante de construire 15 000...
Campagne,
non, mais
j'ai dû y réfléchir. On ne peut pas dire on va faire 15 000 places de prison, arriver à 4 ans et demi du quinquennat en disant il y en a 7 500 qui sortent de terre, 8 000 qui vont sortir,
non, c'est alors pas que les élections dis, sont dans c'est que j'ai l'impression que vous minorez quand même la difficulté parfois de faire sortir de terre des infrastructures qui requièrent à la fois un consensus au niveau des îlots locaux pour installer. Mais non, mais si vous voulez, c'est simple, si vous voulez, en posture, en n'ayant jamais exercé le pouvoir, de considérer que tout est facile et tout peut faire en 15 jours.
C'est de la volonté politique qui manque.
Non,
c'est de la volonté politique.
C'est
bien sûr, construire des prisons, on construit des prisons.
En tout cas, la volonté politique, elle découle pas de faits divers, comme vous venez de le décrire. Il faut une cohérence globale d'un projet, d'une approche sécuritaire.
Là, on voit exactement qu'il n'y a pas de volonté politique. Il y aurait de la volonté politique, la justice soutiendrait la police. Mettez-vous deux secondes.
Mais c'est pas la justice, c'est pas...
Non. Il faut des réponses immédiates à ce genre de faits divers.
On va marquer une pause et on peut continuer. Pierre, je crois que vous vouliez réagir. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
On est ensemble jusqu'à midi avec vous pour débattre et commenter l'actualité. Pierre Jacquemin, vous vouliez réagir, dire un mot au coup de gueule de Laure Lavalette. J'avais eu le coup de gueule sur ce jeune homme. C'est vrai qu'un rappel à la loi, enfin un stage de citoyenneté quand on menace...
C'est toujours vous avez raison, c'est toujours la manière de présenter les choses. Et quand on a quelqu'un du Rassemblement National en face de soi, on se pose toujours la question, combien de secondes après avoir commencé l'intervention, la question de l'immigré va faire surface? Bon, ça a duré à peu près 4 secondes à peu près.
La réalité
et
vous rattrape.
Cette obsession,
en fait.
Je ne sais pas ce que vous avez fait il y a 40 ans, vous avez fait un pari où vous vous êtes dit à chaque intervention, il va falloir fusiller les immigrés et les mettre sur le banc de la société. Bon, ça, vous le faites très bien.
Et j'attends de pouvoir commenter les faits divers suédois, monsieur, je vous assure.
Surtout, la manière dont vous présentez les choses, et on peut tous être d'accord sur la question de la justice et sur les moyens donnés à la justice de rendre des décisions qui soient à la hauteur des faits qui ont été réalisés. Mais je trouve que vous avez un discours, et je ne parle pas que de vous au Rassemblement National. On l'a vu récemment avec la droite des Républicains. Quand Nicolas Sarkozy a été condamné par la justice, on a vu l'entièreté des cadres des Républicains dire leur soutien qu'ils avaient à Nicolas Sarkozy, qui le soutenait, qui savait qu'il était innocent, etc. Et là, on ne s'interroge pas sur le laxisme de ces gens envers une décision de justice. Et je sais que ça a été vrai aussi au Rassemblement National quand vous avez été condamné et qu'il y a encore des enquêtes en cours sur les fameux assistants parlementaires au niveau européen. Et là aussi, la justice ne fait pas son travail alors qu'elle rend des condamnations que vous trouvez illégitimes. Donc ce que je trouve, c'est cette espèce de truc à deux niveaux qui, pour les uns, il faudrait être beaucoup plus ferme. Et quand ça vous concerne, quand il s'agit des cols blancs, alors là, bah non, il faut être un peu plus laxiste. Franchement, la justice va trop loin, etc., etc. C'est ce double discours qui n'est pas entendable, en fait. Qui n'est pas,
c'est pas
entendable,
c'est pas très français, mais qui n'est pas audible. Quand votre sécurité, en 5 ans, on voit bien que notre sécurité a encore diminué avec ce quinquennat Macron. Encore une fois, j'ai eu une aparté. Moi, j'habite Toulon. Je peux vous dire que la réalité de l'insécurité, je la connais, quoi. Je suis mère de famille, mes filles ne vont plus à la plage. Elles se font emmerder systématiquement. Elles prennent le bus, elles se font harceler. Il y a un moment où, effectivement, on n'en peut plus et on a envie d'avoir une réponse.
Mais vous n'avez pas le monopole de la lutte contre la sécurité, madame.
Mais
il y a des maires socialistes qui augmentent les effectifs de police municipale qui font le travail que vous ne faites pas parce que vous n'êtes pas en situation de responsabilité.
Je vous assure qu'on n'est pas dogmatique et que moi, tout ce qui va dans le bon sens et dans la sécurité du français, que ça vienne de n'importe quel bord politique, évidemment. Et d'ailleurs, dans nos assemblées, vous savez, on n'est pas dogmatique, on vote aussi.
Vous ne votez pas. Pourquoi vous ne votez pas une grande partie des lois sur le renseignement qui ont permis d'accroître les moyens?
Dès que ça peut arranger, amener.
Pourquoi vous n'avez pas voté le bouclier de sécurité de Valérie Pécresse?
Non, mais il n'allait pas assez loin.
Au-delà.
Typiquement, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas voté la loi Schiappa. Schiappa, sur le harcèlement de rue, elle veut simplement faire de ce harcèlement une contravention. Nous, on pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. On veut que ça soit un délit. On veut que les harceleurs de rue, ils passent devant un tribunal. Parce qu'il ne faut pas que la jeunesse de France ait la boule au ventre. Et elle a la boule au ventre. Moi, je veux être tranquille quand mes enfants vont à l'école, en bus, et quand ils sortent le soir. Je veux être tranquille. Oui, mais ça n'est pas le cas. Donc, il faut absolument avoir des réponses pénales immédiates. Il faut que le harceleur de rue, il sache que s'il se fait choper, il passe au tribunal.
Voilà. On peut quand même, sans dire oui, mais vous avez dit que, on peut s'étonner tout de même quand même de cette condamnation. De cette condamnation assez étonnante d'un type qui vole du matériel et qui en plus est surveillant dans un lycée.
Non mais Valérie, on peut évidemment s'en étonner. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir une lecture à double niveau. C'est-à-dire que ce qu'on applique pour les uns, il faut l'appliquer pour les autres. Et là, je ne sais pas, je ne suis pas un juriste, je ne suis pas un juge, je ne suis pas un avocat. Je ne sais pas quel type de condamnation il faudrait pour cela. Après, je pense que la question du tout répressif, la question évidente, qui vous paraît évidente, qui serait celle de la prison, ne me paraît pas si évidente que ça. Je ne pense pas que la prison soit l'alternative principale, unique, pour des décisions.
Non, mais la
de
question,
justice.
C'est quel est le signal qu'on envoie quand vous voyez ce jeune homme qui pille un camion de pompiers qui ressort avec un stage de citoyenneté? C'est quand même allons-y, quoi.
Bah, je ne suis pas juge, soit vous faites
les
confiance
pompiers.
En votre justice,
alors,
soit
là,
vous faites pas confiance.
Non, effectivement,
la justice,
il est en garde à vue parce qu'il a dit nique la mère à Blanquer, et voilà, donc là, il est encore en garde à vue, sa garde à vue a été prolongée, on va bien voir ce qui passe, mais il ne peut pas avoir de rappel à la loi, ça n'existe plus. Mais il faudrait quand même des mesures fortes, il faut envoyer quand même un signal en disant on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas voler un camion de pompiers, c'est pas possible. Mais il y a 20 ans, ça paraissait mais inimaginable. Je veux dire, et là, c'est open bar, c'est pas possible. Il faut quand même une réponse pénale différente.
Mais j'aimerais que vous soyez aussi sérieuse, aussi ferme. Non, mais j'aimerais vous entendre de manière aussi ferme quand c'est des hommes politiques qui sont condamnés pour blanchiment, pour harcèlement sexuel, pour
voilà. Mais bien sûr, mais évidemment que si. Mais avouez quand même que typiquement le blanchiment,
on ne sera pas d'accord.
Quand vous êtes concerné par cette décision de justice, on peut pas dire que vous soyez là.
Il faut refaire une émission parce qu'il est 25, on va pas y arriver. Voilà. Franchement, on a des choses à se dire.
Allez, on va passer à notre premier sujet. Alors oui, on va encore parler d'Éric Zemmour, mais il se trouve que c'est notre sondage. Le sondage IFOP pour Sud Radio. On a posé un certain nombre de questions. Enfin, l'IFOP a posé un certain nombre de questions sur l'image d'Éric Zemmour. Et pour 53% des Français, il est inquiétant, il les inquiète. Et pour 39% d'entre eux, il est proche de leurs préoccupations. C'est plus un sondage sur l'image d'Éric Zemmour que sur sa possibilité d'accéder ou non.
Savez-vous, chère Valérie, si les gens qui ont été interrogés sont des responsables des partis politiques de droite, et c'est pour ça qu'ils sont 53%
à être inquiets
par l'émergence d'Éric Zemmour. Non, ça me rappelle un sondage fait par l'IFOP à l'arrivée d'Emmanuel Macron, et les Français étaient aussi inquiets par Emmanuel Macron, par son jupitérisme mis en plate, espèce d'hubris sur lequel lesquels on a écrit des milliers d'articles. Oui, ça m'étonne pas. Il a il a été condamné par la justice. Deux, il a des propos qui sont et des propositions qui ne sont pas faites par Michel de Montaigne et qui seraient le temple de la modération. Quoi qu'on en dise, l'émergence d'Éric Zemmour est tout à fait étonnante. Et puis après, moi, ce qui m'agace un peu, c'est quand on dit c'est un phénomène médiatique. J'ai retrouvé,
ouais, je suis d'accord avec vous.
J'ai retrouvé un bouquin d'un jeune auteur qui fera peut-être parler de lui, qui s'appelle René Raymond, et qui en 86 a écrit un bouquin assez simple dont le titre était « Qu'est-ce qu'un homme politique ?» Alors, je vous passe la définition, mais à un moment, il vient et il dit « un chroniqueur politique ». Qui est reconnu pour sa capacité, son expertise, dit-il, à analyser les textes constitutionnels, a tout à fait la capacité de se présenter au suffrage. Et alors il dit, pourquoi ? Parce qu'avant, en fait, il y avait une espèce de, alors je ne vais pas dire camarilla, mais en tout cas un groupe d'hommes politiques, parce que les gens voulaient que l'homme politique change les choses. Et René Raymond dit, avec la présidentialisation du régime, et le développement des médias, il dit, maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce que pensent les lecteurs. Ouais. Voilà, donc, Éric Zemmour, à ce titre-là, qui n'est pas le plus con, qui, quand même, alors que nous, les communicants, on a été biberonnés à la formation des clients pour leur dire, faites surtout simple, comme disait Clémenceau, sujet, verbe, complément, et vous passerez me voir pour les adjectifs. Zemmour, quand il fait une émission, vous avez des gens assez populaires, je suis assez surpris par les sondages qui ont été faits sur son électorat, qui vous disent, moi, je vois les vieux potes de mon père, qui est alors un sapeur-pompier, sous-officier, donc c'est pour ça que j'en ai pas rajouté. Ils vous disent, moi, quand j'écoute Zemmour, je ressors plus intelligent. Donc, vous voyez, ce phénomène-là, il ne faut pas le minorer. Et à partir du moment où vous avez plusieurs instituts qui vous disent « le gars est au deuxième tour », il faut s'alerter aux inquiétudes parce que on ne sait pas ce qu'il pense sur l'économie, on ne sait pas véritablement s'il serait d'accord sur l'indexation de la Crimée, est-ce qu'il serait d'accord pour pousser le candidat de l'Égypte à la présidence d'Interpol. Vous voyez, tous ces trucs-là, on ne sait pas. Donc, c'est à peu près normal qu'ils soient inquiétants. Il faudra qu'ils précisent, en tout cas, ses positions.
Allez, on va y revenir dans un instant parce que je vous donnerai le détail du sondage, parce qu'il y a des points plutôt positifs. 42% le considèrent honnête, proche des préoccupations des Français, 39%. On y revient dans un instant, restez avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio 10h midi, débat.
Le débat, on revient sur notre sondage IFOP pour Sud Radio, un sondage qui posait cette question. Pour chacun des termes suivants, diriez-vous qu'il s'applique bien ou mal à Éric Zemmour ? Alors, qu'il vous inquiète, 53%, dangereux pour la démocratie, 53%, honnête, 42%, proche des préoccupations des Français, 39%, porteur d'une vision pour le pays, 39%. Alors, je vois que les porteurs d'une vision pour le pays, les électeurs Rassemblement National, c'est 69% qui pensent qu'il est porteur d'une vision pour le pays. Proche des préoccupations des Français, c'est 68% pour les électeurs du Rassemblement National, et chez les Républicains, évidemment, c'est là où il prend où il a le plus d'opinions positives, c'est 50 et 54%. Vous vouliez
Je voulais réagir sur ce que nous disait
Jackie Isabello.
Jackie, juste avant la pub, c'est qu'à mon avis, l'analyse qui doit être faite des sondages et de la progression d'Éric Zemmour, particulièrement au sein d'un électorat qui est celui des classes populaires, il est intéressant. À mon avis, à un égard, c'est que pendant longtemps, et Jackie l'a rappelé, finalement, le discours politique, du moins les responsables politiques, s'efforçaient de finalement rentrer dans un schéma de simplification à l'extrême de leurs propos, de leurs programmes, et ils ont refusé de toutes parts une sorte de bataille des récits qui s'ancrait leur vision du monde, leur vision finalement de ce qu'est la République, de ce qu'est la France, dans un esprit millénaire parfois. Ils ont refusé ce champ-là en disant on doit s'adapter aux attentes des gens au plus près de là où ils sont, au plus près de là où ils vivent, finalement, en étant sclérosés dans une logique de court terme, sans absolument aucune capacité à projeter une vision sur le long terme. Et aujourd'hui, le retour de bâton de ces sondages, à mon avis, c'est ça. Les sondages d'Éric Zemmour, c'est enfin, si vous voulez, une capacité, sans doute avec beaucoup de mauvaise foi sur le court terme et l'aptitude à répondre aux problématiques des gens, mais à inscrire le discours politique dans une vision qui trouve ses origines il y a plusieurs centaines d'années et qui sans doute essaye d'engager dans plusieurs centaines d'années. Alors maintenant, ce que j'appelle de mes voeux, c'est que les modérés de tous bords, les raisonnés de tous bords, ceux qui, encore une fois, sont en responsabilité et ont sans doute un discours, rentrent dans cette bataille des récits, sans quoi, effectivement, des sondages comme ça se multiplieront.
Je peux revenir une toute petite seconde sur les sondages. Les sondages, quand même, ces derniers mois se sont plantés dans les grandes largeurs. Hein. Je vous rappelle qu'on aurait dû gagner la région. 7 sondages nous donnaient gagnants à l'endroit, à l'envers, à 2, à 4, dans toutes les configurations de la tête.
En même temps, passez pas la faute des sondages.
Les sondeurs sont tombés à côté. Je voudrais juste revenir sur ces sondages. Du coup, les sondeurs ont été un peu obligés d'affiner, entre guillemets, leurs critères. Et là, on a des sondages tout à fait inédits. Ça n'est jamais arrivé sur des tout petits échantillonnages. 400, 690 personnes, 700. La question principale, c'est est-ce que vous êtes sûr d'aller voter? Mais promis, jury craché, si vous avez le moindre doute en disant je sais pas trop, à ce moment-là, vous n'êtes pas pris en compte. Et franchement, pour être sur le terrain, moi je les vois, les gens. Ils se demandent pas pour qui ils vont voter. Ils se demandent comment ils vont remplir leur frigidaire. Ils se demandent comment ils vont payer les couches à leurs enfants.
Il va falloir qu'ils votent aussi.
Mais on est à 7 mois des présidentielles. On est à 7 mois, les gens. Ils se demandent comment ils vont mettre de l'essence dans leur voiture. Parce que, n'en déplaise aux bobos parisiens, vous savez que nous, on a besoin de notre voiture pour aller travailler, pour amener les enfants chez l'orthodontiste, mais ça, c'est une réalité qu'on a quand même un peu tendance à oublier, qu'Anne Hidalgo pour le coup a bien tendance à oublier. Les gens se demandent comment ils vont se chauffer. Ils se demandent comment ils vont s'ils doivent choisir entre se loger. Il y a quand même un Français sur quatre qui mange pas à sa faim.
Oui, mais l'argument il est un peu comme Pierre Jacquemin quand il vous répond sur vous dites ça, mais il y a aussi ça. Ouais. Là, vous répondez à côté. Là, il y a une réalité qui est.
Je pense que ces sondages. Il nous explique qu'elle est au second tour.
Non, mais c'est un peu différent.
Pourquoi elle le dit?
Parce que je pense que ça fait 4 ans. Oui, mais écoutez-moi, ça n'est pas la même méthodologie du tout. En vrai, c'est sur un échantillon beaucoup plus large. Et encore une fois, je vous dis, ils se sont bien plantés. Et je pense quand même que les sondages n'ont jamais été aussi peu fiables. Et pourtant, n'ont jamais eu autant d'influence. Alors, je vous rappelle qu'il n'est pas candidat. C'est quand même juste énorme.
Alors, allez-y, parlez bien dans le micro.
Oui, je peux vous poser une question. Parce que ça m'interpelle de vous entendre aujourd'hui minorer le rôle des sondages ou tout remettre en cause. Il y a le slogan de votre candidate, ou moins l'affiche, c'est « Liberté, liberté chérie ». Vous reprenez un exemplaire de challenge sur l'étude qui a été menée auprès de 10 000 Français. C'est drôle parce que les termes qui ressortent, la valeur clé, c'est la liberté, et le sous-titre de l'explicatif, c'est « Liberté, liberté chérie ». À mon avis, je vais vous donner, franco de port, mon explication, c'est qu'à mon avis, Marine Le Pen est la personnelle politique qui s'inspire le plus des sondages pour dicter, conduire ses politiques publiques, et c'est aujourd'hui, à mon avis aussi, ce que les gens rejettent. Alors, c'est finalement cette aptitude à changer, à s'adapter. Un coup, on est pour la sortie de l'euro, c'est pas anodin, c'est pas finalement, on considère que c'est pas très important. Un peu de densité, de cohérence, et là, les Français, peut-être, ont voté pour vous.
C'est à vous qui êtes en responsabilité. Mais on ne fait que ça. Pendant que Éric Zemmour prend la pause, je vous assure qu'on propose. Marine Le Pen, elle était à Hayange, elle parlait de la préférence nationale.
Elle est inaudible aujourd'hui.
Pourquoi elle est inaudible?
Parce que pas du tout.
Excusez-moi, il est sur tous les plateaux. Je veux dire, vous ouvrez votre frigo, vous avez l'impression de voir Éric Zemmour.
C'est elle qui refuse de débattre. C'est elle qui refuse le plateau.
Elle a dit hier, c'est de la mauvaise foi. Elle a dit hier, dès qu'il est candidat, on parle. Enfin, je veux dire, pas du tout. Elle va passer sa troisième élection présidentielle.
Sur le sondage de Sud. Moi, je suis très étonné que ce soit pas davantage d'inquiétudes qui émergent de ce sondage, parce que ce type est totalement fou, il est sans doute plein d'intelligence, mais surtout plein de contradictions. Et oui, j'ai l'impression qu'il a un problème personnel à régler avec lui-même et qu'il est complètement fou. Il a une lecture de l'histoire qui est totalement erronée. Franchement, je trouve sa démarche totalement folle. C'est-à-dire que quand on fait de la politique, on n'a pas envie de cliver. Il est là pour cliver. Il a une haine des gens. Il a une haine de l'immigré. Il a une obsession, c'est l'immigré, comme le Rassemblement National.
Quand il a fait son débat
avec Jean-Luc Mélenchon, certes, il y avait deux visions qui se sont opposées, mais à la question « qu'est-ce que vous nous proposez sur la question écolo ?», ça n'est pas mon problème, il répond, ça n'est pas mon problème. Mon problème, c'est l'islam. Il le dit texto. Donc, ce monsieur n'a pas du tout d'envergure, d'homme d'État, et j'espère que les Français auront conscience qu'il ne peut pas être un homme d'État. Sur les sondages, là où je peux rejoindre ce que vous dites, c'est que le sondage qui a fait tant parler de lui cette semaine avec Challenge, qui publie ce second tour, Éric Zemmour et Emmanuel Macron, j'allais dire Madame Le Pen, quelle horreur,
en second tour. Vous imaginez un second tour Zemmour-Le Pen.
Il y a sans doute quelque chose qui ne va pas. Quand vous regardez l'entièreté des sondeurs, tous les sondages qui sont sortis, Éric Zemmour, les trois quarts des sondages, il est donné entre 10 et 12%. Là, ce sondage, Harris donne M. Zemmour entre 17 et 18%. Il y a une semaine ou deux semaines, quand je discutais avec des sondeurs, ils me disaient, d'ici un mois, il est possible que la courbe se croise entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Donc il y a une espèce de truc pas très sain, et qui est d'ailleurs, qui ne donne pas justice, je pense, aux sondeurs, et je sais qu'il y a beaucoup de sondeurs qui font la gueule avec le sondage Harris, parce que la méthode ne me paraît pas être la bonne.
Non, et qu'il y a cette course, votre honnêteté intellectuelle.
Non, c'est pas une honnêteté intellectuelle, c'est qu'il y a sans doute une course à l'échalote de celui qui annoncera
le plus vite et le plus tôt le danger
Zemmour.
Le sondage d'aujourd'hui n'est pas celui de demain. Il faut quand même pas taper sur les sondeurs, parce que leurs méthodes sont connues.
Sur un sondage, pas sur les
sondeurs sont contrôlés par la commission des sondages. Sur cette élection,
ils sont plantés.
Pour rentrer un petit peu dans les arcanes.
Jean-Luc Mélenchon, dans son sondage, il donnait à 11% quand tous les autres sondages, il donnait à
8%. La commission des sondages, sur cette élection, leur a dit, bon, pour les régionales, il y a eu des dysfonctionnements, mais des dysfonctionnements qui sont dus au questionnement des gens. Les gens peuvent changer d'avis. Et ils ont demandé aux sondeurs de mettre en avant un peu plus officiellement ce qu'on appelle la marge d'erreur, qui est assez importante, parce que quand on dit 17, ça veut dire que ça peut être 19, mais ça peut être aussi 15. Donc ça, c'est un point. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que la fonction tribunicienne prend le pas de plus en plus sur la stature d'homme politique. Donc on est en droit de se dire, est-ce que c'est pas la résurgence des théories de bord ? On est de plus en plus dans la société du spectacle et de se dire, est-ce que dans la tête de l'électeur, de plus en plus, l'élection présidentielle n'est pas un spectacle. Tout à l'heure, je ne sais plus si c'est vous qui disiez hors micro, on s'en fout de la position de Zemmour sur la Crimée, et vous aviez sans doute totalement raison, et de se dire, cette campagne politique, cette campagne présidentielle, comme les prochaines, ça va devenir un véritable spectacle, et si Zemmour, parce qu'il connaît bien la politique, qu'il connaît bien l'opinion, se dit, il faut que j'offre un spectacle, et mon positionnement, c'est l'immigré, c'est l'islam, et c'est ça qui va me faire gagner, eh bien, si ça marche, il faudra revoir ce qu'on considère comme étant la place de l'homme politique au sein d'une séquence qui est l'élection présidentielle. Et là, si jamais on est plus Nikos Aliagas que véritablement Pierre Mendès France ou le général de Gaulle, il faudra en tirer les conséquences.
Je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. Moi, mon adversaire n'est pas Emmanuel Macron. Je ne suis pas là pour diviser le camp national. J'ai suffisamment à faire avec
Emmanuel Macron.
Votre adversaire
n'est pas Emmanuel
Macron. Je sais que Marine Le Pen, du coup,
se ressent dans les
chiffres
politiques grâce à Éric
Zemmour. Mon adversaire n'était pas Éric Zemmour. Je ne suis pas là pour diviser le camp national. J'ai suffisamment à faire justement avec.
Dédiabolisation,
avec le quinquennat d'Emmanuel Macron, plus d'immigrés, moins de sécurité, moins de liberté, enfin, tout ça, évidemment. Ceci dit, je rejoins ce que vous disiez sur le côté clivant. Je pense que, justement, je vais être chauvine deux minutes, Mistral disait, il ne s'agit pas de faire simplement une majorité, il faut refaire un peuple. Et je pense que Marine Le Pen a cette capacité de refaire un peuple qu'un Éric Zemmour, qui est beaucoup plus clivant, n'a pas. Parce qu'effectivement, peut-être que lui, il a pris le parti de faire comme Trump ou Johnson. C'est pas du tout l'idée. Marine Le Pen ne pense pas que la guerre civile est inéluctable. Marine Le Pen pense qu'on peut revenir vraiment à une unité nationale et pour autant continuer.
Pas avec Marine Le Pen, vous savez. C'est ce qui vous inquiète dans la candidature d'Éric Zemmour. Parce que lui, il prend des voix sur la droite. Marine Le Pen n'est plus en capacité de faire.
Un mot encore, puis on va passer aux éoliennes. Nos auditeurs réclament ces sujets.
Oui, c'est en train de sujet. Et enfin, c'est Buffon qui ne s'inscrit pas dans la politique du spectacle. D'un mot quand même. Moi, je rejette pour grande partie tout le corpus programmatique d'Éric Zemmour. Ça, c'est incontestable. Mais il a de son côté.
On le connaît pas. Il a pas fait proposition encore, on sait absolument rien.
Il a de son côté la cohérence, madame. La cohérence. Et quand madame Le Pen finalement s'inscrit dans les discours en 2011, quand elle accède à la tête du Front National, très offensif sur les questions d'immigration, très offensif sur les discours d'identité, qu'elle est
mais
du corps...
Mais on n'a pas changé.
Quand Jordan Bardella, allez voir vos militants du Sud et dites-leur, Jordan Bardella vous houspille, compare Éric Zemmour au Jean-Marie Le Pen des années 1980. Vous êtes, parce que vous vouliez absolument accéder au pouvoir, parce que vous regardiez les sondages, finalement normalisés, dédiabolisés, sans qu'on ne sache vraiment ce que ça veut dire. Et en fait, vous avez perdu toute crédibilité, toute constance, toute cohérence. Vous passez d'une ligne, finalement, où la dette, c'est pas important, hein, on publie des chroniques dans l'opinion pour rappeler que la dette, c'est important. Vous passiez d'une ligne où, finalement, Maastricht, l'euro, on sait pas très bien quel est notre positionnement. Ah, il faut sortir de tout parce que c'est un boulet pour notre souveraineté nationale. Ah, finalement... finalement, il n'y a aucune difficulté à rester dans ces institutions parce que ça a fait peur aux Français. Écoutez,
non, mais
madame,
je ne peux pas vous laisser dire, c'est un faux procès. On allait sur les plateaux, on nous disait non, mais arrêtez, parlez pas qu'immigration, ça va bien, c'était votre fonds de commerce. Vous ne pouvez pas nous dire d'un côté.
Donc c'est intéressant, le responsable politique, il doit s'adapter aux journalistes.
Pas du tout.
Non,
moi,
mais c'est bien, c'est ce que je retiens de votre intervention.
Ça fait 30 ans. Non, ce que je veux vous dire, c'est que ce que vous dites n'est pas vrai. On a toujours parlé immigration. C'est un thème qu'on n'a jamais, absolument jamais abandonné. Justement, les journalistes disaient vous parlez d'immigration, c'est votre fonds de commerce. Moi, ça fait 30 ans que j'ai collé ma première affiche au Front National et maintenant au Rassemblement National. Nos fondamentaux n'ont jamais changé.
Bon.
Pas du tout.
Donc,
et Marine
donc vous ne rejetez rien à Jean-Marie Le Pen.
Ah, bah, super. Alors,
Madame
Le Pen,
je vous rappelle quand même que le Front National, à l'origine, était un parti ultra-libéral. Vous n'êtes plus ultra-libéral.
En tout cas, je peux vous dire que sur les questions d'immigration,
et tous les gens qui étaient auprès de Jean-Marie Le Pen étaient des ultra-libéraux au début.
On n'a absolument pas changé notre ligne sur les fondamentaux, et notamment sur l'immigration.
Reprenez tous les points
sur le terrain.
Stop.
On va dire quand même quelques mots sur l'éolien. Les Français seraient majoritairement favorables à l'énergie éolienne. Bah dites donc, qui c'est qui a commandé ce sondage? Bah dites donc, c'est l'ADEME et le ministère de la Transition écologique, ça alors, incroyable, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Les Français en majorité favorables à l'éolien, ils ont une image favorable. C'est un sondage Harris Interactive, encore une fois, qui a été commandé par l'ADEME et le ministère de la Transition écologique. Alors, c'est assez étonnant parce que en cherchant pas très loin, en tapant sondage éolien, il y en avait un dans le Figaro, dites donc, la semaine dernière, de Odoxa, qui disait que l'image de l'éolien se dégrade très fortement en France. Donc, c'est encore une fois une manière
comme quoi, les
de
sondages.
Présenter les choses, l'énergie éolienne est loin de faire l'unanimité. Alors, majorité de Français ont une bonne image, 63% dans le Odoxa. Cette semaine, c'est 73%. Il y a 10 points de plus chez un autre sondeur. Donc, nos auditeurs sont assez étonnés de ce sondage. Lucien nous dit... Non, c'est pas ça. Lucien, il nous parlait d'Éric Zemmour. Arrêtez la chasse aux sorcières vis-à-vis d'Éric Zemmour. Il gêne les bien-pensants de gauche qui sont vos invités. Non, c'était un peu plus nuancé, je pense, mais... sur l'éolien, j'ai perdu. Voilà, sur l'éolien, effectivement, ils sont un petit peu étonnés. Puis on a Claude en ligne avec nous. Bonjour, Claude.
Oui, bonjour Valérie Expert, bonjour à toute l'équipe. Voilà, bonjour, moi je suis étonné, mais surtout je suis pas tant que ça finalement, parce que le sondage il donne simplement le fait que quand on interroge les gens des villes, ils sont pour l'éolien puisqu'ils en ont pas chez eux, ils savent pas ce que c'est, ils connaissent pas les contraintes, et puis en plus on leur bourre le crâne en commençant par l'école. N'importe quel lancement d'émission à la télé montre maintenant de la nature avec des éoliennes. Donc si vous voulez, on est soumis à tout ça, et pendant ce temps-là, finalement dans les coins maintenant, on est dans les régions maintenant, on est en train de faire maintenant de l'éolien flottant en mer Méditerranée. Enfin, je veux dire, on n'arrête pas, et on sait que c'est uniquement un produit financier, puisque l'éolien ne fonctionne que grâce aux subventions. Donc ça, c'est dramatique. Alors on a Emmanuel Macron qui évidemment parle au dernier à qui il veut se faire entendre. Maintenant, il est pour le nucléaire, mais il propose des petites centrales qui sont encore a priori pas sorties des bureaux d'études. Enfin, je veux dire, on est dans une situation catastrophique en termes de transition énergétique, et on va le payer très cher en termes de gaz, en termes de coupure un jour ou l'autre, parce qu'on va manquer d'électricité.
Merci Claude de cette intervention. Michel Dutard nous dit les Français favorables aux éoliennes. Non mais je rêve, ce sondage n'a été fait qu'auprès d'urbains qui veulent polluer nos campagnes pour éclairer leurs villes et recharger leurs trottinettes.
Qui a un billet d'ancrage géographique sur l'analyse des éoliennes, c'est évident. Néanmoins, je pense qu'une partie des Français sont globalement pragmatiques. C'est-à-dire qu'ils regardent le mix électrique, ils considèrent qu'effectivement 70% de ce mix électrique découle de l'énergie nucléaire décarbonée. Et donc, tout le monde, enfin, du moins une bonne partie d'entre eux, considère que le nucléaire est une filière dont il faut continuer à assurer la pérennité. Mais dans le même temps, ils attendent du responsable politique d'insuffler une initiative pour développer les énergies renouvelables, qu'elles soient, que ce soit marée motrice, que ce soit éolien offshore, éolien terrestre, que ce soit solaire. Et donc, je pense qu'ils sont dans cette logique-là, d'à la fois capitaliser sur l'énergie nucléaire qui est un de nos actifs industriels les plus forts pour faire face au changement climatique, mais dans le même temps de développer les sources d'énergie renouvelable dont l'éolien fait partie. Ouais. Et à cela je rajoute tout de même que l'analyse selon laquelle le produit éolien n'est qu'un produit financier tend à disparaître de plus en plus. C'était une filière, et votre auditeur a raison, très dépendante des subventions publiques, et elle l'est encore en partie, mais de plus en plus, il y a des gains d'économie d'échelle et des coûts qui se réduisent, non, qui permettent de considérer que c'est une
alternative. C'est assez compliqué d'y voir clair. Un auditeur nous dit, j'écoute Sud Radio depuis un moment, on a parlé des effets négatifs des éoliennes. Effectivement, récemment, chez André Berkoff, quelqu'un est venu expliquer que même d'un point de vue écologique, c'était pas forcément formidable.
Moi, je ne suis pas un expert en énergie éolienne. J'espère que ça va être un sujet central de la campagne électorale. Et on voit qu'effectivement, la question énergétique, avec toutes les questions d'indépendance, les questions de maîtrise des coûts, des prix, a une importance chez les Français, parce que là, les Français le voient clairement dans leurs factures et vont le voir clairement dans leurs factures dans les prochains mois. Et que donc, du coup, j'espère que ça va être un sujet qui va intéresser et qu'on verra justement l'offre des différents candidat. Je pense que la question, elle ne doit pas se poser de manière dogmatique. Je pense qu'il y a une nécessité de sortir des énergies fossiles. Je pense que tout le monde en convient aujourd'hui et que il y a différentes alternatives. Il y a l'éolien, il y a le solaire, il y a l'hydraulique et que c'est aussi une nécessité de l'État, de la part de l'État, de réinvestir ce secteur-là. Il n'y a pas que les éoliennes dans les champs, il y a les éoliennes dans la mer qui sont aussi possibles. Et puis il y a aussi une deuxième problématique à laquelle il va falloir que les politiques assument aussi clairement une position. C'est aussi la baisse aussi de notre consommation d'énergie. J'ai lu un livre récemment qui s'appelle, c'est un livre sur les besoins d'un sociologue qui s'appelle Razmik Echuyan, qui parle du droit à l'obscurité. Pardon, mais quand on voit les lumières des panneaux publicitaires la nuit qui sont éclairées dans les grands centres urbains, les lumières qui sont on le voit d'ailleurs, les fameuses photos de Thomas Pesquet, où on voit ces points de lumière qui existent dans la nuit. C'est un problème, donc c'est une question aussi de comment on repense notre mode de consommation. Je pense qu'il y a à la fois la production d'énergie et la façon dont on consomme cette énergie.
Pas trop d'accord avec ça.
Moi, je trouve pour répondre à Claude, tout à l'heure, il parlait des petits réacteurs. Alors, les petits réacteurs, les atomiciens, les maîtrisent. Ce que les Français ont du mal à voir, et c'est tout à fait normal, c'est qu'ils ont en tête l'EPR. L'EPR, c'est une technologie formidable, mais on a voulu faire un truc gigantesque dans un endroit qui était totalement inadapté, même s'il y avait de l'eau. Et ce gigantisme, il est totalement mort. Mais les petits EPR, un peu partout, comme la 5G est un peu partout, ce sont des choses qui vont extrêmement bien fonctionner, dont on maîtrisera le risque, et surtout, et je parle sous le contrôle de Lucas, ça va nous permettre demain, quand on aura finalisé la technologie, ça va nous permettre de dévorer les autres déchets. Et ça, c'est exceptionnel. Et puis, derrière, il faut dire aux Français, mais je pense que les gens sont en train de changer d'état d'esprit, c'est sans nucléaire, imaginez l'état de la France. Enfin, on peut être contre le fait que la France ait une industrie qui vend des sous-marins, mais ça nous permet pour un petit pays quand même d'avoir voix au chapitre, d'être au Conseil de sécurité de l'ONU. Et le nucléaire, ça fait aussi ça. Si jamais on nous enlève ce nucléaire, eh bien, ça sera catastrophique. Après, la question est de savoir si est-ce que l'éolien, ça sera la fausse bonne idée. On est d'accord, on veut tous du renouvelable. Je termine juste pour donner une référence à vos auditeurs, parce que c'est un bouquin qui est super simple et qui est très sympa, les bouquins de Guillaume Pitron sur la montée en charge de l'électrique, la manière dont la voiture électrique est quand même une promesse verte qui est une fausse promesse, mais ce bouquin explique la montée en charge de consommation électrique dont on va avoir besoin, et sans le nucléaire, eh bien on pourra pas en faire, parce que l'éolien, juste pour terminer, quand on nous dit ça fonctionne entre 75% et 90%. Quelqu'un qui fait du commerce.
Non,
25%.
Non. En fait, les chiffres, Lucas les a un peu plus.
Ça fonctionne un quart du temps.
Alors, non, ça fonctionne pas un quart du temps. Ça c'est une fake news.
Faudrait qu'on la fasse
check. Juste pour terminer, même 75 et 90%, quelqu'un qui vend, il a 110% d'un stock. Qui va assumer les 30% du manque de stock? Si jamais on est dans le 30% du manque du stock, qui va assumer de ne pas avoir d'électricité pendant 2 jours? Donc c'est pas possible, et ça aussi c'est l'éolien, et il faut le garder en tête.
Non, mais l'éolien, c'est pas une fake news, ça fonctionne à peu près un quart du temps, mais ça défigure le paysage absolument tout le temps. On a même été obligé.
Marine Le Pen, elle en pense quoi, hein?
Qu'il faut du nucléaire. On a une énergie propre, décarbonée, pas de coupure l'hiver. On a surtout une souveraineté énergétique qui est quand même bien importante. Les éoliennes, je le rappelle aussi, c'est fabriqué en Allemagne, au Danemark, en Espagne, c'est monté par les pays de l'Est avec des gens qui ont des contrats, des travailleurs détaché, ça n'amène rien sur notre sol à part des pollutions visuelles, sonores.
On aura l'occasion, je pense, d'en reparler. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous et il recevra entre autres invité la veuve de Pablo Escobar. À lundi, très bon week-end.